Info Club Sandwich. Bonjour tout le monde et bienvenue dans Info Club Sandwich, votre émission d'actualité locale et associative réalisée par Radio Campus Amiens, 87.7 FM, également disponible sur le DAB+ et radiocampusamiens.fr. Nous sommes le jeudi 23 avril 2026 et aujourd'hui je suis en compagnie de Mouna qui sera à l'interview. Bonjour Mouna.
Bonjour Margot.
Et en deuxième partie d'émission, je vous propose une chronique à propos du devoir de mémoire. Moi, c'est Margot et aujourd'hui, côté musique, on écoutera aussi The Car de Arctic Monkeys et Empire Ants de Gorillaz pour se dire au revoir et profitez-en parce que dans une semaine, j'aurai fini mon service civique à la radio et je ne serai plus autant présente dans l'émission. Enfin bon, pour l'instant, on écoute Mouna et ses invités.
Merci à toi Margot. Alors aujourd'hui, je suis en compagnie de Philippe Lorenzo, directeur général de la Pradis, et Cédric Merlot, chargé de communication. Bonjour à vous.
Bonjour.
Bonjour.
Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter à nos auditeurs et auditrices et quels sont vos rôles au sein de l'association ?
Eh bien écoutez, moi je suis donc Philippe Lorenzo, directeur général de la Pradis, c'est-à-dire que je suis censé diriger tout le monde. C'est mon rôle principal.
Cédric Merlot, donc chargé de communication pour la Pradis, qui donc présent sur trois sites, Amiens, Beauvais et Laon. Donc chargé de communication pour les trois sites. Et mon rôle principal, c'est de faire la promotion de l'école, du centre de formation, auprès des différents publics qu'on accueille.
Alors, la Pradis, c'est une association pour la professionnalisation, la recherche, l'accompagnement et le développement en intervention sociale. Vous fêtez vos 60 ans cette année, mais avant d'aller plus loin sur ce sujet, vous pouvez nous dire en quoi consiste la Pradis et quelles sont vos missions ?
Eh bien, la Pradis, donc, c'est un centre de formation en travail social essentiellement et depuis quelque temps en profession sportive. Nous formons donc les jeunes étudiants qui sortent pour une partie d'entre eux du lycée via Parcoursup aux professions donc, du social, du médico-social. Et puis après, toutes sortes de publics, des gens qui sont en reconversion professionnelle, des gens qui sont déjà en activité et qui veulent se former de manière continue au métier du social, du médico-social et du sport. Voilà notre activité principale. Dans un second temps, nous accompagnons aussi les professionnels et les organisations médico-sociales dans le fonctionnement. Donc nous faisons un accompagnement pédagogique, organisationnel, etc. qui nous amène à travailler sur l'ensemble de la région. Et principalement le sud de la région, donc l'ancienne Picardie.
Alors, vous êtes présent sur plusieurs sites, à Amiens, Laon et Beauvais. Comment vous faites pour vous organiser sur le territoire ?
Eh bien, bon, pour ce qui me concerne, j'ai une petite voiture qui me permet d'aller d'un site à l'autre rapidement. Et des fois, je prends mon vélo. Non, plus sérieusement, en fait. Plus sérieusement, donc on a trois sites. Alors, le site principal, c'est quand même Amiens, puisque nous avons un contingent d'à peu près 3300 étudiants sur l'ensemble de la région, et les centres de Beauvais et de Laon sont plus petits puisqu'ils concernent à peu près 200-250 étudiants. Donc la majeure partie des étudiants sont concentrés à Amiens. Nous avons deux équipes à Beauvais et à Laon qui sont composées de 6 personnes, alors qu'à Amiens, nous avons une centaine de personnes qui sont soit des pédagogues, soit des fonctions support qui font fonctionner l'organisation de la Pradis.
Donc vous avez plus d'étudiants sur Amiens, c'est ça ?
C'est ça, on a plus d'étudiants sur Amiens, bien évidemment, puisque Beauvais et Laon sont des plus petits centres. Et nous ne faisons pas toutes les formations à Beauvais et à Laon, nous en faisons que quelques-unes par rapport à Amiens, où nous avons quand même un panel d'une quinzaine de formations.
D'accord. Concernant les formations, quelles formations vous proposez et à qui elles s'adressent ?
Donc on propose, comme le disait Philippe, des formations au métier du social, du médico-social et du sport. Donc ces formations s'adressent à tous les publics, on reçoit à tout âge, tout niveau, tout profil, c'est-à-dire que ça peut être des jeunes fraîchement bacheliers, ça peut être des personnes en reconversion, et voilà, donc on forme sur ces métiers du médico-social, du social et du sport, sur des parcours qui peuvent s'étaler pour la plupart de 1 an à 3 ans de formation, avec des formations supérieures, comme les diplômes d'État d'éducateur spécialisé, hein, qui donne ou d'assistant de service social, qui donne un grade licence. Et puis, on forme aussi, comme je le disais, à des métiers qui ne nécessitent pas forcément de diplôme pour arriver chez nous. Il y a des tests de sélection pour entrer en formation, mais que ça ne nécessite pas forcément un niveau de diplôme requis.
Donc, comme vous l'avez dit, les formations peuvent durer en général de 1 à 3 ans, c'est cela ?
Pour la majeure partie, oui, c'est ça.
Et est-ce que vous avez des formations qui s'étalent plus longtemps ou qui durent moins longtemps ?
Alors après, nous avons également des formations courtes qui s'adressent plutôt aux établissements des services médico-sociaux pour des professionnels qui sont déjà en poste et qui veulent obtenir, monter en compétences ou se spécialiser dans divers domaines.
D'accord. Est-ce que vous vous spécialisez sur certains profils ou certains domaines en particulier ?
Non, pas forcément. On est ouvert à tout profil et on s'adapte aussi aux demandes par rapport au territoire. C'est-à-dire qu'on peut aussi mettre en place certains modules de formation selon la demande et les besoins des territoires.
Comme vous l'avez dit, du coup, vous ne faites pas seulement autour de tout ce qui est social, vous faites aussi des formations en sport, c'est ça ?
Oui, c'est ça. Nous avons 3 BPGEPS. Un BPGEPS MAPS, multi-activité physique et sportive, un BPGEPS AAN, activité aquatique et de la natation, et un BPGEPS activité physique et sportive.
Vous faites des formations sportives depuis quand ?
Depuis 2009.
D'accord. Pourquoi vous avez décidé d'en faire ?
C'est à l'époque la directrice de l'époque qui était également coach sportive dans une association et qui a par ses contacts pu mettre en place cette formation sur le site de l'IRF à l'époque, puisque à l'époque c'était l'IRF, c'était pas la Pradis.
Oui, on développe ces formations sportives aujourd'hui, puisque le BPGEPS, l'activité de la forme, est ancien. 2 BPGEPS sont ouverts cette année, en 2025-26. Et là, nous sommes en relation avec le comité olympique et sportif de l'Aisne pour ouvrir une autre formation BPGEPS dans l'Aisne, autour de l'An, et avoir d'autres formations plus courtes dans le département de l'Aisne.
C'est quoi, du coup, la formation BPGEPS ?
BPGEP, c'est une formation brevet d'État d'activité physique et sportive.
D'accord. Et du coup, elle est ouverte à tout public, c'est ça ?
Alors, elle est ouverte à tout public, sous réserve que le public en question puisse passer et satisfaire à des tests physiques, notamment le célèbre test de Léger qui vous demande de courir de plus en plus vite entre deux plots et qui fait que 50% des candidats, malheureusement, n'arrivent pas à atteindre deux plots en phase 2.
D'accord. Et ça dure combien de temps, du coup, cette formation ?
Elle dure
un an.
D'accord. Et c'est quoi, du coup, les débouchés à cette formation ?
Les débouchés BPGEPS, ils sont divers et variés. On peut intégrer des clubs sportifs pour être entraîneur, coach, animateur d'enfants. On peut travailler dans les collectivités locales pour peu qu'elles aient la compétence sportive dans des centres d'animation, dans des CAJ, par exemple. Dans les écoles, voilà, on peut faire multiples activités. On peut être aussi coach indépendant et travailler avec les personnes qui adhèrent à notre structure.
D'accord. Alors, est-ce qu'il y a des formations que vous privilégiez plus que d'autres ? Et si oui, lesquelles ?
Alors, on ne privilégie pas des formations plus que d'autres, puisque toutes les formations, enfin, tous les métiers du social et du médico-social sont aujourd'hui très en difficulté. On manque de recrutement, on manque de personnes. Et donc, on ne privilégie pas les formations. Par contre, on essaie de faire entrer le maximum possible de personnes dans nos formations pour qu'on puisse leur donner une chance de pouvoir travailler par la suite sur le terrain. On a des formations qui sont infra-bac. On a des formations qui sont de niveau bac pour entrer. Et donc, Parcoursup, on a fini la campagne Parcoursup là, il y a quelques jours, quelques semaines. Beaucoup d'étudiants viennent dans des formations qui vont donner après un grade licence à la formation. Et puis, on a des formations qui sont d'un niveau supérieur et qui permettent donc à des gens qui sont aujourd'hui en emploi de pouvoir devenir directeur de leur structure ou chef de service de leur structure. Donc, c'est des formations qui sont plus intéressantes au niveau responsabilité.
D'accord. Alors, après une formation chez vous, vers quel métier les étudiants se dirigent en général ?
Donc, si c'est les métiers du social, ils se dirigent vers les structures du médico-social. Elles deviennent, pour la plupart, intervenantes sociale par rapport à tous les métiers qu'on a présentés. Pour le sport, elles deviennent coach sportif, animateur sportif, éducateur sportif. Et du coup, elles travaillent dans des structures qui dépendent bien souvent d'associations qui sont sous statut associatif, Ce sont des structures qui regroupent plusieurs établissements la plupart du temps. C'est-à-dire qu'une structure peut gérer un EHPAD, elle peut gérer un foyer de vie, elle peut gérer un IME. Donc ce sont des structures qui sont assez importantes en termes de salariés, puisqu'il y en a certaines qui peuvent dépasser le millier de salariés.
Est-ce que vous êtes en partenariat avec des structures comme ça ?
Oui, puisque nos formations ont toutes lieu en alternance, pas forcément par le biais d'un contrat d'apprentissage, mais par le biais de stages aussi. Ça veut dire qu'on travaille avec des lieux de professionnalisation, c'est-à-dire des lieux d'accueil pour nos stagiaires.
Oui, et à l'Apradis, on a créé ce qu'on appelle des comités de sites. Donc dans chacun des trois sites de l'Apradis, Amiens, Beauvais et Laon, on réunit nos partenaires associatifs ou établissements publics, puisque notamment les départements sont partie prenante du travail social. On les réunit pour discuter avec nos partenaires donc de choses qui ont à voir avec la formation, qui ont à voir avec les actions sur le terrain, qui ont à voir avec les besoins de recrutement qu'ont les uns et les autres pour pouvoir accomplir les métiers qu'ils font.
Vous faites comme vous l'avez dit, vous faites des formations en alternance, c'est ça ?
Oui.
Et pas que ?
Alors, on fait le médico-social, enfin la formation en travail social médico-social est un peu particulière, puisque nous faisons que de l'alternance, c'est ce qu'on appelle l'alternance intégrative. Autrement dit, les étudiants ne sont pas tout le temps chez nous. Ils sont chez nous à certains moments et d'autres moments, ils sont en stage chez des employeurs. Même s'ils n'ont pas un contrat d'apprentissage, même s'ils n'ont pas un contrat de professionnalisation, le principe, c'est qu'ils sont en formation théorique pendant 1500 heures, je vais prendre une moyenne, chez nous, et en formation pratique chez les employeurs, 2100 heures. Donc ça fait qu'ils sont beaucoup à l'extérieur en fait, de la formation, du centre de formation.
Et qui travaille dans les formations ? Est-ce que ce sont des éducateurs, des professeurs ou des personnes agréées ?
Ben, c'est un peu tout le monde. C'est-à-dire que dans notre cas spécifique, pour être formateur à l'Apradis, il faut déjà avoir un diplôme de travail social. Donc si on travaille avec les éducateurs spécialisés, on a un diplôme d'éducateur spécialisé. Si on travaille avec les assistants de service social, on a un diplôme d'assistant de service social. Donc ça, c'est le minimum qu'il faut avoir. Nous avons à peu près une cinquantaine de formateurs permanents. Alors, on les appelle formateurs et pas enseignants chez nous, mais c'est pas très grave. Et pas professeur, encore moins, mais c'est pas très grave non plus. Ils sont formateurs, donc une cinquantaine de formateurs. Et puis nous faisons appel à des professionnels sur le terrain qui sont en poste aujourd'hui et qui viennent partager leur expérience, leurs compétences avec nos étudiants. Et là, nous avons aujourd'hui à peu près 600 à 700 formateurs qu'on appelle occasionnels et qui interviennent dans les différentes formations à différents niveaux.
Vous faites la différence du coup entre un professeur et un formateur, c'est ça ?
Alors, on ne fait pas de la différence puisqu'on n'a pas de professeurs. On n'a que des formateurs. Dans notre milieu, on les appelle formateurs. Ailleurs, on les appelle professeurs. Ailleurs, on les appelle enseignants. Mais nous, c'est formateurs. C'est comme ça que les choses se passent.
D'accord. Alors, vous faites seulement des formations. Que faites-vous d'autre ?
Eh bien, à côté des formations, alors nous avons deux types de formations. Les formations d'apprenants qui sortent du bac ou qui sont jeunes et qui sont en formation initiale. Et puis de la formation continue auprès de professionnels qui sont déjà en poste dans les établissements et dans les services et qui viennent se former en formation continue sur différents aspects de leur profession. À côté de ça, nous avons un accompagnement d'établissements sociaux, médico-sociaux, où nous avons des formations qui sont à la carte ou des prestations d'accompagnement. Nous faisons aussi de l'analyse de la pratique. Donc nous sommes avec des professionnels dans un établissement et nous réfléchissons avec eux sur ce que sont leurs pratiques et comment pouvoir améliorer les pratiques pour le futur.
Pourquoi c'est important, selon vous, de s'engager dans les métiers sociaux ?
Déjà parce qu'il y a des besoins. Et puis, ce sont des métiers qui sont intéressants, qui sont passionnants pour les personnes qui ont choisi ces voies-là. Il n'y a pas une journée qui ressemble à une autre journée. C'est très varié. Et puis, on travaille auprès de l'humain, donc c'est quand même quelque chose d'important. Et puis, ça permet aussi aux personnes qui entrent dans un parcours de formation d'évoluer aussi, hein, puisqu'on a des étudiants qui étaient chez nous en tant que moniteurs éducateurs il y a 10 ans, et aujourd'hui, ils sont directeurs d'établissement ou responsables de structures.
Alors, nous appartenons à des organismes nationaux, nous sommes adhérents d'organismes nationaux, et notamment ce qu'on appelle notre syndicat employeur, nous demande à ce qu'on appelle ces métiers non plus les métiers du social, du médico-social, non plus les métiers du lien, mais les métiers de la solidarité, pour bien montrer qu'il y a un aspect solidaire, en fait, dans la conduite de ces métiers auprès des populations les plus vulnérables. ce soit les populations les plus âgées, les plus en difficulté, les populations en situation de handicap, la population de l'enfance. Donc c'est vraiment une action solidaire qu'on veut mener, c'est ça qui est l'ADN finalement de notre métier.
D'accord. Comment on fait pour du coup s'inscrire à vos formations? Est-ce qu'il y a des conditions ou un coût à prévoir?
Alors un coût à prévoir, oui. Les formations ne sont pas gratuites, quoique. En réalité, pour s'inscrire pour une partie de nos étudiants, ils sortent du lycée avec le bac et donc passent par Parcoursup, ça n'existe pas encore, mais Parcoursup, pour pouvoir donc rentrer. Ils ont un entretien quand on les reçoit pour voir s'ils ont un projet professionnel en adéquation avec les formations que l'on va faire, si c'est bien ça qu'ils veulent faire. Et puis après, donc, ils rentrent en formation. D'autres sont par la voie de l'apprentissage et là, eux sont rémunérés pour faire la formation, puisque ce sont des salariés, finalement, de l'entreprise, de l'organisation. Et puis, d'autres peuvent financer eux-mêmes leur formation. Mais quand la formation est gratuite pour les étudiants qui passent par parcours bac, c'est parce que la région finance ces formations. C'est toujours un financeur quelque part, c'est soit la région, soit l'apprentissage, soit des financements personnels. Mais en tout cas, ça ne coûte pas rien. Et pour vous donner un ordre d'idée, pour faire une formation d'éducateur spécialisé, aujourd'hui, ça coûte à peu près 15 000 euros pour 3 ans.
Donc, en fait, les 15 000 euros, c'est le coût pédagogique de la formation. Donc, c'est-à-dire qu'un apprenti qui entre en formation chez nous, ben, son employeur paye les 15 000 euros. Tandis qu'un étudiant qui sort, un candidat Parcoursup, lui peut voir sa formation prise en charge par la région, c'est-à-dire que la région Hauts-de-France prend en charge les 15 000 euros, et donc lui restera à sa charge 173 euros de droits d'inscription annuel, ce qui correspond aux droits d'inscription universitaire, et puis 465 euros de frais de scolarité, c'est-à-dire que pour un étudiant en formation initiale, c'est à peu près 650 euros par an que va lui coûter la formation.
Est-ce qu'un étudiant qui fait, par exemple, une de vos formations, il peut bénéficier de la bourse ?
Oui. Alors nous, c'est les bourses d'études sanitaires et sociales, hein, BE2S, qui sont directement gérées par le Conseil régional des Hauts-de-France. Hein, pour l'Université de Picardie, il y a le CROUS entre deux qui gère les bourses. Mais nous, comme on est un établissement moins important que l'université, c'est directement le conseil régional qui gère les bourses pour nous. Donc en effet, les étudiants peuvent, selon certaines conditions bien sûr, bénéficier de bourses qui peuvent aller jusqu'à 6 000 euros par an, à peu près.
D'accord. Alors là, on va plus parler du côté programme et événementiel de l'association. Est-ce que vous organisez ou participez régulièrement à des événements pour faire connaître la Pradis ? Et si oui, c'est où ? Est-ce que c'est dans tout Amiens, dans les environs ? Ou vraiment juste à Amiens?
Oui, on participe à différents événements. Le plus médiatique, on va dire, aujourd'hui à Amiens, c'est la journée d'accueil des étudiants qui se passe en septembre et dans laquelle nous sommes partie prenante avec l'Université de Picardie-Jules Verne, avec les arts et métiers, enfin un certain nombre d'organisations qui sont autour de nous. Donc ça, c'est important. Et nos étudiants, notamment via le bureau des étudiants, se mobilisent fortement pour participer à cette journée de septembre. Après, nous participons à différentes commissions, ce n'est pas événement, en tout cas des commissions qui ont soit organisées par la région, soit organisées par la ville d'Amiens, voire la métropole. Et pareil à Beauvais, pareil à Lens. Donc nous sommes quand même bien investis. Nous avons participé à Lens, par exemple, à une randonnée vélo qui s'appelait la Voltigeuse et qui a fait que les vélos ont traversé l'établissement de formation de Lens. C'était un peu particulier. Et puis cette année, il y a quelques semaines, nous avons été lieu de départ et d'arrivée de l'Urban Trail d'Amiens. Et donc nous avons accueilli sur le site à peu près 5 000 participants, plus tout le staff, plus tout le village, j'allais dire olympique, mais non, c'est le village quand même, de l'Urban Trail. Donc c'est un événement important qui a permis à des gens d'Amiens de savoir que la Pradis existait, que le lieu existait, que le parc existait, quelque chose qu'ils ne connaissaient pas du tout. Donc oui, notre intérêt, c'est de participer, de faire participer effectivement la Pradis à différents mouvements. Et puis nous avons, depuis quelques années, depuis 2022, nous organisons la célébration des diplômés. Donc en novembre, un jeudi soir ou un vendredi soir, que ce soit à Beauvais, Amiens ou à Lens, on félicite nos chaleureux candidats qui sont diplômés et puis on les célèbre. Voilà. Donc oui, on participe à ces événements-là. Et puis cette année, c'est particulier, on va y revenir. C'est parce que nous fêtons nos 60 ans d'existence.
Et C'est où, plus exactement, l'APRADIS ?
Alors, l'APRADIS, si vous vous retournez, je dis ça aux auditeurs qui ne voient pas, évidemment, mais si vous vous retournez, c'est droit devant vous. L'APRADIS, en fait, c'est juste derrière Mégacité, l'Hippodrome, le Zénith. Voilà, c'est juste, c'est au petit Saint-Jean, pour ceux qui connaissent bien Amiens. Et c'est juste derrière ces éléments-là. Donc, c'est un parc arboré à Amiens de 7 hectares qui permet d'avoir une vie estudiantine et salariale qui est tout à fait protégée. Ça, c'est pour Amiens. Nous sommes à Radio Campus Amiens, on va s'arrêter là. Mais Beauvais-Land, on a d'autres établissements, effectivement.
Alors, comme vous l'avez dit, cette année célèbre les 60 ans de votre organisme. Qu'avez-vous prévu, du coup, pour cette occasion ?
Alors, pour les 60 ans, déjà, on a prévu de réhabiliter l'ensemble de nos bâtiments, puisque le bâtiment d'Amiens a été construit en 1972. Donc, ça fait très, très longtemps, et qu'il était devenu une véritable passoire thermique. Puisqu'à l'époque, en 72, il n'y avait pas les chocs pétroliers, il n'y avait pas le prix du pétrole qui augmentait. C'était juste après. Alors, ce n'est pas comme aujourd'hui, mais c'était juste après. Et donc, on a transformé nos bâtiments, on les a isolés, on a construit une extension, puisqu'on les accueille de plus en plus de monde. Alors, ça tombe juste avec les 60 ans, et on va inaugurer ces bâtiments le 15 octobre prochain. Et en même temps, on fêtera nos 60 ans.
Oui, donc, divers événements sont prévus tout au long de l'année. Donc, l'Urban Trail a un petit peu ouvert cet anniversaire. Le 15 octobre, ce sera la journée, on va dire, événementielle. Donc, on prévoit une conférence sur le thème du social. On prévoit une exposition de photos. On va aussi recueillir, on est en train de recueillir des témoignages d'anciens étudiants, d'anciens professionnels ou de personnes qui ont connu ou qui connaissent l'APRADIS et qui veulent en parler. Donc, sous diverses formes, que ce soit des recueils de documents, des recueils vidéo, des témoignages écrits. Donc là, on est à la recherche de tous ces documents.
Vous avez dit que vous avez changé d'emplacement, c'est ça ? Vous allez vous rester sur Amiens ?
On n'a jamais changé d'emplacement. On est toujours été au même endroit. On a juste, comme le disait Philippe, rénové et étendu nos locaux.
D'accord. Alors, par rapport à l'appel à témoignage, pourquoi est-ce que vous avez décidé de faire ça ?
Bon, on s'était dit que c'était quand même intéressant de recueillir les témoignages des personnes qui ont connu l'APRADIS, qui ont connu l'IRF, hein, l'Institut Régional de Formation et Fonction Éducative, avant, et à l'origine qui ont connu le CREAI de Picardie en 1966. C'est quand même important puisque ça va nous permettre de recueillir des témoignages des premières promotions. C'est-à-dire que nous avons encore... nous avons réussi à retrouver des contacts d'étudiants qui ont intégré la première promotion, par exemple, d'éducateurs spécialisés, la promo de 1971, où il y avait à l'époque 23 étudiants. Aujourd'hui, ils sont près de 150.
Par rapport à la journée du jeudi 15 octobre 2026, c'est pour inaugurer vos nouveaux bâtiments, c'est ça ?
Donc le matin, il y aura une inauguration des nouveaux bâtiments et de l'extension en présence des élus et des divers partenaires. Et puis l'après-midi sera plutôt dédié vraiment à l'anniversaire avec donc des expositions, une conférence. On va essayer aussi de solliciter des groupes de musique. Voilà, ce sera assez festif.
Voilà, des musiques, et si vous le souhaitez, on pourrait faire une émission en direct de Radio Campus au sein de nos locaux. À ce moment-là, ça serait tout à fait sympathique. Une radio pour les étudiants, dans un lieu pour les étudiants. Écoutez, on prend date et on organise ça.
Eh bien, pourquoi pas. Et du coup, pour finir, comment on fait pour s'inscrire à ces événements et suivre vos actualités ?
Donc, nous avons déjà un site internet, apradis.eu. Nous sommes bien sûr présents sur les réseaux sociaux. Facebook, Instagram, LinkedIn et TikTok. Et puis, pour les inscriptions, pour les personnes qui souhaitent entrer en formation chez nous, tout se passe sur notre site internet. Ce sont uniquement des inscriptions en ligne. Donc, sur le site, il y a toute l'offre de formation et puis toutes les informations pour s'inscrire.
Eh bien, alors, je vous remercie d'être venu et d'avoir répondu à nos questions. Et
merci,
je n'ai rien d'autre
merci
à rajouter.
Vous.
Merci beaucoup.
thinking about how funny I must look, trying to adjust to what's been there all along. The boat kiosk lady and her sleepy amigo, fetch something from the car. Travel size champagne, cork pops, and we're sweeping for bugs. Some dusty apartment, what's it called, cafe? You can arrive at 11 and have lunch with the English. But it ain't a holiday until they fall. Climb up there and jump off that, and you pretend to fall asleep on the way back.
C'était The Car de Arctic Monkeys, toujours sur Radio Campus Amiens 87.7. 25 avril 1915, bataille des Dardanelles, aussi appelée bataille de Gallipoli en Italie. L'Anzac Day est un hommage aux Australian and New Zealand Army Corps qui sont partis au front depuis 1914. À travers le monde, des citoyens et citoyennes australiens et néo-zélandais prennent part à différentes activités commémoratives. Et en 1915, c'est eux qui ont empêché la prise d'Amiens par les opposants et récupéré la ville de Villers-Bretonneux, tout cela au prix de 10 729 soldats de l'Anzac au cours des 8 mois de bataille. Du 24 au 26 avril, on se lève très tôt et les célébrations, marches et activités commémoratives commencent à 3 heures du matin. Le grand rassemblement a lieu à 5h30, heure à laquelle les troupes australiennes ont repris la commune de Villers-Bretonneux aux Allemands il y a plus d'un siècle. C'est là que se trouve le grand mémorial depuis l'après-guerre. Chaque année, parents, grands-parents, enfants, petits-enfants viennent participer à ces célébrations depuis l'autre bout du monde. On les croise toujours en ville à Amiens, également pendant cette période, et ils sont plus de 5000 à se rassembler. Ce voyage de mémoire les amène à se promener également le long du chemin du souvenir, front principal de la Grande Guerre, qui s'étend de la Somme jusqu'aux Flandres belges. Et beaucoup d'entre nous sont également concernés. Mais d'où nous vient ce devoir de mémoire qui perdure un siècle plus tard et devrait perdurer pour toujours? Eh bien justement, il fit son apparition post-Première Guerre mondiale, alors que les pertes étaient plus conséquentes que ce que nous avions pu vivre auparavant et surtout concerne du monde aux quatre coins de la planète. Ce devoir, c'est celui de l'État, qui en est également responsable. Il se trouve éternellement redevable aux familles et proches des hommes, femmes et enfants qui ont péri au cours de la guerre. Il s'oppose drastiquement d'ailleurs à la clause d'amnistie et des traités de paix qui, dans un souci d'apaisement et retour à la paix, imposaient formellement l'oubli de toutes les pertes et deuils passés relatifs au conflit et interdisaient carrément de les évoquer. L'amnistie, plus précisément, c'est une notion de droit pénal qu'on peut définir comme l'acte qui dispose que des fautes passées devront être oubliées et qui interdit à quiconque de les rechercher ou de les évoquer sous peine de sanction. Je ne savais même pas que cette notion existait, et bien heureusement, cela a changé. Le devoir de mémoire a par la suite été inscrit dans plusieurs textes et lois de l'État pour marquer la nécessité de continuer à transmettre la mémoire des héros volontaires ou involontaires et victimes, afin également de toujours se souvenir des erreurs passées et d'à quel point il faut être prudent pour qu'elles ne se reproduisent jamais. Il s'est réellement implanté dans le décor pour reconnaître les victimes des crimes nazis. Alors il est important de le rappeler de temps en temps, le devoir de mémoire n'a pas à se présenter d'un point de vue exclusivement diplomatique ou patriotique, il représente ceux qui ont péri pour notre liberté, les familles qui les ont pleurées et qui en seront toujours marquées, et pour rappeler au monde entier, aussi instable qu'il soit en ce moment, ce qui nous est arrivé dans le passé, ce qui arrive en ce moment dans différentes régions du monde et ce qui menace de se produire à nouveau partout autour de chacun d'entre nous. Transmettre, c'est une des clés de l'avenir de l'humanité, alors souvenez-vous et rappelez-le à votre entourage et continuez à commémorer nos ancêtres, surtout que la Grande Guerre et la Seconde Guerre, c'était presque hier. Et je le rappelle, le nazisme est un crime. Sur ce, accueillez tous, avec beaucoup de gaieté, nos amis australiens et néo-zélandais qui viennent littéralement de l'autre bout de la planète pour se souvenir. Et n'hésitez pas à faire un tour à Villers-Bretonneux, parce que pour le coup, si vous nous écoutez sur le 87.7 FM, c'est que vous n'en êtes vraiment pas loin. En tout cas, Info Club Sandwich, c'est terminé. On se retrouve comme d'habitude à midi et 18h du lundi au vendredi et sur radiocampusamiens.fr à la réécoute. Et mon moment préféré, on écoute encore du Gorillaz avec moi avant mon départ très très proche, Empire Ants dans leur album Plastic Beach. Bonne journée à toutes et à tous. Polyphonic prayer is here, it's all.